Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Sœur Claude, vous avez un masque magnifique. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ?
Donne-moi ton regard.
Donne-moi ton regard.
Voilà. Parce que ça vient d'une prière des personnes en précarité qu'ils ont fait pour à l'occasion de Diaconia 2013. C'est « Donne-moi, Seigneur, ton regard pour regarder la personne avec tes yeux. » Voilà. Donc, et en ce moment, avec l'histoire des masques et le texte d'évangile qu'on va partager aujourd'hui, c'était tout à fait en lien. C'est pour ça qu'on a mis « Donne-moi ton regard » sur ces masques. Puisqu'on ne peut pas trop donner notre sourire, on a nos yeux quand même. Et que les personnes en précarité aussi sont tellement sensibles à la façon dont on les regarde, car souvent, ils sont regardés soit de travers, soit ils ne sont pas regardés.
Cette journée, c'est celle du 17 octobre, journée du refus de la misère. Une initiative née en France il y a 30 ans et dont la raison d'être n'a jamais été aussi criante. En France, selon l'Observatoire des inégalités, ils sont 5 millions à vivre avec moins de 846 euros par mois et près de 9 millions à vivre avec moins de 1015 euros par mois et d'autres encore avec beaucoup moins. Au cours de la journée, organisée cette année encore à Toulouse en la cathédrale Saint-Étienne par le service de la diaconie, ensemble, pauvres et riches, selon les mots de l'affiche 2020, poseraient des gestes, feraient entendre leur voix. H-1, avant la célébration, nous sommes dans la cour Sainte-Anne avec Sébastien Combre, responsable du service de la diaconie.
Aujourd'hui, où il faut réduire l'emploi, il faut réduire ses déplacements, il faut tout réduire, on se pose la question de comment permettre à chacun d'avoir sa part. Et en fait, il y en a qui ont de moins en moins leur part. Mmh. La misère, elle est liée aussi aux conditions du monde. Aujourd'hui, où il y a moins... Il y a moins de déplacements, il y a moins de travail. Comment on fait pour que chacun l'ait ? Ça veut dire qu'en fait, il faut que chacun ait un peu moins.
Ici à Toulouse, alors vous êtes en charge, en responsabilité de la diaconie, du service de la diaconie. Vous êtes témoin justement de cette précarité qui s'installe peut-être de plus en plus pour certains.
J'ai du mal à dire que c'est plus ou que c'est moins. De toute manière, pour les gens qui vivaient dans la galère, il n'y a pas de plus ou il n'y a pas de moins. Enfin, pour certains, de toute manière, ça ne pouvait pas être pire. Après, il y a tout un phénomène nouveau là, qui apparaît depuis... Enfin, nouveau en tout cas, qui prend une ampleur importante là, depuis une dizaine, une vingtaine d'années. C'est tout ce qui est lié à la migration et des personnes qui arrivent sur le territoire et qui se retrouvent pendant des années avec rien, quoi. Là, ce soir, justement, enfin, cet après-midi, il y a quelqu'un qui témoigne, un couple qui témoigne, une dame qui dit « Moi, depuis que j'ai 13 ans, je suis expulsée. J'ai toujours été expulsée, je suis expulsée depuis que j'ai 13 ans. » Et là, ils attendent la réponse pour l'expulsion du squat dans lequel ils sont actuellement. Et ils disent quelque chose qui me touche, ils disent... Nous, on comprend que le monsieur, il n'est pas content parce qu'on a squatté sa maison. Mais il faut qu'on comprenne que nous aussi, on n'est pas content d'être dans la rue. On a 4 enfants et c'est violent la rue, on n'est pas en sécurité. Ces situations-là qui sont des situations catastrophiques, alors je ne sais pas si elles sont de plus ou moins, mais en tout cas, elles existent, quoi. Elles existent.
Bonjour.
Bon, je m'appelle Boban.
Oui.
Mon nom de famille, c'est Stefanovic. Oh, oui, je suis en famille avec ma femme, avec mes enfants. Et puis, je viens pour déclarer un peu des choses, des petites choses, des petites tailles.
D'où vous venez? Vous nous expliquez un petit peu?
Bon, moi, je viens de Serbie. Là, ça fait déjà plus de 12 ans, à peu près, avec toute ma famille, quasiment. On aime ici. On aime la France aussi. Je sais pas, c'est c'est quelque chose qui m'attachait ici pour venir, pour habiter ici, pour changer le monde, pour voir, pour le système et tout ça.
D'ailleurs, dans la vidéo, vous dites que vos enfants, ils sont nés ici, je crois.
Oui.
Vos enfants. Et que pour eux, leur pays, leur, c'est ici. Oui, ils vivent ici. Oui. Eux, ils sont bien ici.
Oui, exactement, oui. Parce qu'ils ont appris à vivre ici. La vie ici, la culture, la tradition. Le manger, le parler, le vivre, les copains et tout. Vraiment, pour eux, c'est son terrain, oui, je ne sais pas.
Et pour vous ?
Pour moi aussi, parce que depuis l'âge de 13 ans, je suis en France. Je suis partie peut-être un peu, mais presque toute ma vie, je l'ai passée ici.
Je ne sais pas si ça me plaît. Le Toulouse, c'est pas le Toulouse, pour après c'est la France, oui. Mais surtout Toulouse, je parle avec ma femme et je disais, bon, j'aimerais bien construire ma vie ici. Pourquoi? C'est une bonne question, mais je sais pas. C'est juste que ça me plaît.
Peut-être parce qu'on a 12 enfants nés à Toulouse. Oui. Je pense que c'est pour
j'aime
ça.
Bien Toulouse.
Et vous avez rencontré peut-être des gens qui vous ont écouté?
Des copains, des gens qui vraiment aujourd'hui sont notre ami, c'est comme la famille. Si on aime le quartier qu'on est, avec les gens qui parlent, c'est comme la famille pour nous, c'est notre famille, voilà. C'est notre pays, comme, je ne sais pas comment dire.
Et d'ailleurs, dans la vidéo aussi, il y a quelque chose que vous dites qui est très très fort. Vous dites, le bon Dieu, il n'a pas besoin de papier.
Oui.
Non, mais...
Parce que tout le monde dit, je vois les papiers, mais... À l'époque, il n'y avait pas les papiers, il n'y avait rien, il y avait le monde qui s'est entraîné, qui s'est aidé, qui s'est travaillé, qui demande ses... personne qui s'est demandé pour les papiers, on s'en fiche pour les papiers. Papiers, ça sert pour quoi? Pour rien, on sait qui, t'es qui et tout ça, oui, mais les papiers, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est juste, si on travaille, si on peut travailler, on travaille, mais le papier, ça reste un papier, mais nous, on reste...
Voilà, et comme vous dites, le Seigneur, il vous connaît par votre prénom. Il vous connaît.
Il ne connaît pas les papiers. Il ne connaît pas ce qu'est les papiers, ça.
Alors, votre prénom, le Seigneur vous connaît, le connaît, mais moi, je ne le connais pas encore.
Teresa.
Et vos enfants, comment ils s'appellent?
C'est Brian, Brenda, et après, j'ai Simon et Samantha, qui sont avec une amie qui on a fait le baptême. Ils sont avec eux, passer les vacances un peu sur la campagne, qui vont revenir demain après-midi. Ils sont avec elle parce qu'on l'aide à faire les travaux pour l'école, pour les vacances, voilà.
Vous avez trouvé des amis ici, une famille,
oui.
L'enracinement dans la foi aussi.
Oui.
Nous, on espère et on prie toujours pour avoir un travail normal comme tout le monde. On fait ça, on fait des démarches et tout ça. Mais...
Moi, je me dis, chaque fois, chaque jour, merci à bon Dieu qui est avec ma famille toujours. C'est pas la question, ah oui, demain je me réveille parce qu'il faut que je prenne de là-bas, des sous. Non, on arrête avec ça, les sous ça ramène nulle part. Il faut le dire les personnes, mais si à bon Dieu que je suis avec ma famille, de bon matin je suis avec. C'est ça plus important pour moi, pour tous, je préfère ça. Mais après les personnes qui disent, oui, c'est la richesse et tout ça, la richesse ça ramène nulle part. Après bon, on n'est pas tous pareils, mais on sait changer le monde.
Les enfants, on y
petit
va.
À petit.
Tiens, t'as une jolie image. Tu es né pour la route, marche. Tu as rendez-vous. Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore. Avec toi, peut-être ? Alors, marche. Enfin, reste assise, hein, pour l'instant. On y va. Quel est mon nom ? D'où je viens ? Où et avec qui je veux marcher ? Où et avec qui je pense avoir rendez-vous cet après-midi ?
Alors, je suis prêtre, Georges Boyer, Père Georges Boyer.
Pour dire leur refus de la misère et en dépit des contraintes sanitaires, ils sont venus nombreux. Mais tout comme Mireille, Elisabeth ou le Père Boyer, ils sont de ceux qui mettent leurs mots en acte.
Je suis très social, porté sur le sport. Je suis engagé à la Ligue des droits de l'homme, le droit au logement. Je suis un prêtre engagé. Engagé, disons, dans tout ce qui est humain, contre le racisme, les injustices, etc.
Alors, je suis Mireille Pellerin. Je suis de Castanet. On a ouvert il y a une vingtaine d'années un café amitié et on accueille des personnes qui souffrent de solitude. Oui, on a des gens de passage, on a des gens de la paroisse, on a des habitués, on a le foyer logement qui n'est pas très loin, donc on accueille des personnes qui souffrent de solitude au foyer logement. Mais il y a aussi des personnes qui ne souffrent pas de solitude, mais qui sont contentes de revenir retrouver un petit noyau d'amitié. Voilà, tout simplement.
Moi, je suis Elisabeth Robial, je suis aussi de la paroisse de Castanet. Alors moi, ce qui me fait marcher, c'est toutes les personnes qui sont hospitalisées, qui sont malades ou qui sont seules. Je fais partie de l'aumônerie des cliniques. Malheureusement, avec le Covid, on est interdit de séjour, si je peux dire, dans les cliniques. Mais on prie pour eux et voilà. Autrement, je fais partie de l'association Habitat Humanisme, qui a pour but, de par la réinsertion, de réinsérer des gens de toutes sortes par le logement et de les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent être complètement indépendants. Voilà.
D'accord. Donc on a le sport, le social, on a les personnes isolées, on a les en difficulté, on a le médical, on a ceux qui sont en difficulté aussi.
Les migrants.
Et les migrants.
Oui, bonjour, je m'appelle Jovanovic Teresa. Bah oui, je suis un migrant sans papier. Je n'ai pas grand-chose à vous raconter.
Non, au contraire, vous êtes central.
voilà.
Moi, c'est Bernard Macheneau, je suis de la paroisse de la Patte d'Oie. Et ça fait 4 ans que, suite au pape François, on a ouvert nos portes pour s'occuper des migrants. Donc on a un important centre maintenant de migrants. On est ouvert toute la journée, matin et soir, et on accueille à peu près une quarantaine de migrants. J'ai une trentaine de bénévoles. Et on fait le classique, cours de français, vêtements, plus une originalité, on fait bagagerie. C'est-à-dire qu'on prend les, comme la consigne à la gare, hein, voilà. Donc on prend les valises pour qu'elles puissent se balader un peu plus facilement, logistiquement.
Alors cet après-midi, ici, dans la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, sur l'affiche que j'ai pu lire, c'est la rencontre entre les riches et les pauvres. C'est ça exactement le libellé, c'est quoi?
C'est lorsque riches et pauvres se rencontrent, l'unité devient visible.
L'unité devient... Est-ce que c'est réaliste, ça?
Moi, à mon expérience, elle fait que des rencontres que j'ai vécues avec les plus pauvres, on touche du doigt le royaume de Dieu à chaque fois. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que pauvres et riches mangent à la même table. La fraternité, c'est un élément indispensable de notre Église. On ne peut pas vivre l'Église sans vivre la fraternité. Et on ne peut pas vivre la fraternité universelle, hein, catholique, sans avoir une attention toute particulière à ceux qui souffrent le plus. Et pour le coup, ils souffrent le plus parce qu'ils sont exclus de cette fraternité, justement. Ils en sont... Voilà, les clés de compréhension de la misère, c'est la honte et l'exclusion. L'exclusion qui fait que les gens, ils sont condamnés à vivre seuls, isolés dans leur coin ou isolés dans leur propre milieu parfois. Hein. On pense aux populations roms, par exemple, qui font peuple ensemble, mais qui la population roms est exclue, enfin, de l'ensemble de la population. Et quand, finalement, on vit des temps de rencontres où on peut se parler, se voir, se regarder, se sourire... Ben, le royaume de Dieu devient visible.
Et c'est un premier pas, ça, c'est un premier pas, la rencontre, mais après la rencontre.
Oui, alors, après la rencontre. De toute manière, c'est vrai que si on veut que le monde y change, il y a deux orientations, enfin deux axes qu'il faut travailler. La conversion des cœurs et la conversion institutionnelle. Voilà. Mais la conversion institutionnelle, si elle ne se passe pas par la conversion des cœurs, ça ne marche pas. Et la conversion des cœurs, si elle ne passe pas par une révolution institutionnelle, je veux dire de l'organisation politique dans le sens noble, c'est-à-dire d'organisation de la cité, eh bien, y a quelque chose qui ne marche pas. Hein. Donc il faut travailler dans ces deux axes. Et voilà, au service de la diaconie, on tente de travailler ces deux axes. Là, pour cette rencontre autour de la veillée de la prière, On est dans, pour éveiller les consciences, éveiller les cœurs à la rencontre, qui doit être réciproque hein, d'ailleurs, hein, parce que les riches ont peur de rencontrer les pauvres, mais les pauvres ont peur de rencontrer les riches aussi. Hein, c'est pas toujours facile de leur dire vous allez avoir quelque chose à dire. Voilà, parce que la grande misère fait que soit on se retrouve dans... On n'a plus envie, on baisse les bras, on a envie de rien dire, soit on est dans une révolte qui n'est pas justifiée. Et pour être dans une relation juste, il faut travailler. Quoi. Donc cette conversion des cœurs, elle doit aller dans les deux sens.
Mmh. Et sur l'affiche, alors je ne sais pas si c'est un fait exprès, et vous avez écrit « pauvre » avec une majuscule, oui. Et « riche » avec une minuscule. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, en fait, à l'origine, c'est une erreur de frappe.
Oui, mais qui est-ce? C'est l'inconscient qui parle, là.
Oui, non, parce que en fait, je crois que le pauvre, et je pense qu'on n'avait pas mis en pauvre avec une majuscule et sans S, il me semble, c'est le pauvre, en fait. Hein. Donc, ça veut dire que c'est celui qui est encore à rencontrer. C'est-à-dire, il ne faut pas se suffire de la... Moi, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent « Oh, mais des pauvres, j'en connais, j'ai le SDF en bas de chez moi. » Non, en fait, c'est bien, cette rencontre-là, il faut la nourrir, mais il faut, avec lui, aller rencontrer encore plus pauvres. Voilà. Et au bout du chemin, de rencontre de plus pauvre à plus pauvre, on rencontre le plus pauvre, le Christ. Mmh. Voilà. C'est une ébauche de ce qu'on pourrait appeler la théologie du frère. Mais voilà, moi je crois que la rencontre avec les plus pauvres, qui est une dynamique en fait, hein, qui nous entraîne à rencontrer d'autres encore plus pauvres, finalement, nous mène vers le Christ.
Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas ». Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Question et moi, qu'ai-je à recevoir de plus important que l'argent et l'or? Ça ne te dérange pas que tu commences à témoigner? Savoir, depuis que tu es là, que finalement, que tu attends des choses des autres, qu'est-ce qui te touche le plus?
La confiance.
La confiance.
Je pense que c'est important la confiance, parce que si on ne se fait pas confiance, on ne se croit pas.
Oui, c'est beau ça.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui racontent son histoire.
Oui.
Parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas la confiance.
Oui.
Alors ils ne le comptent pas.
D'accord.
Mais après, moi peut-être, quelquefois j'étais pareil. J'avais peur, j'avais pas confiance. Et presque je ne comptais pas mon histoire à personne.
Oui.
Mais depuis que je vis en France, et mes enfants, depuis 3 ans, ils vont à l'école. Avec les gens de l'école, le collectif, j'ai appris la confiance.
D'accord.
Alors depuis que j'ai appris cette confiance-là, je parle ma vie, je l'explique. J'ai plus peur comme avant.
D'accord.
Bon, voilà.
C'est important ce que tu dis parce que... Nous
je dis qu'est-ce que je sens après.
Tout à fait, non.
C'est la question.
Ouais. C'est ça. Après, c'est important parce que nous, quand on est un peu de l'autre côté, si tu veux, moi qui fréquente des migrants toute la journée, on va pas forcer les gens à raconter. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est bien parce que nous, on attend que la personne dise à un moment donné qu'il y ait ce climat de confiance et puisse s'exprimer ce qu'elle vit. Quoi.
Oui, tout ça, c'est la confiance. Parce que s'il n'a pas confiance, alors
d'accord.
Peut-être que c'est ou pas, il n'est pas là-bas. Mais pour avoir confiance, il faut qu'on partage avec des gens,
voilà.
Avec des associations.
Voilà.
Par exemple, avec l'école, l'association.
Chômage, chute des revenus, loyers impayés, explosion de l'aide alimentaire et afflux de bénéficiaires du RSA. Les indicateurs virent au rouge. La crise du Covid-19 provoque un choc social majeur. Les associations de lutte contre l'exclusion crient à l'urgence. Dans les médias, on parle d'un tsunami de la misère. Sœur Claude.
Elle a toujours été là, mais elle est là d'une façon très criante aujourd'hui. Très souffrante, c'est très souffrant aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on la ressent beaucoup plus. Je crois qu'on sent bien que le monde, on est chacun chez soi, on est un peu individualiste. et que ça se traduit par dans la société, que de plus en plus de gens n'arrivent pas à suivre ou décrochent. Ou, voilà. Donc effectivement, quand on commence à être avec ces personnes en précarité, on se rend compte de cette grande souffrance et de l'ampleur, combien de personnes ça touche, quoi.
Des disparités qui ont été accentuées plus encore par cette épidémie, par ce confinement, par toute cette année 2020.
Je crois qu'on s'en rendra compte dans quelques années. Pour l'instant, c'est des personnes qui avaient un travail, qui n'en ont plus, qui essayent de se raccrocher. Et les personnes qui étaient déjà dans la misère, eh bien, elles restent dans la misère. Donc pour elles, finalement, on a l'impression que ça change moins, parce que finalement, elles étaient déjà hors du système. Donc quelque part, elles sentent moins les effets que ceux qui étaient juste à la limite et qui tombent, qui ont basculé. Voilà.
Qui étaient vraiment sur la corde raide.
Hein. Qui étaient sur la corde raide et qui ont basculé. Pour l'instant, ces personnes-là ont encore beaucoup d'énergie, mettent tout en œuvre pour revenir. Voilà, j'espère que...
Bon, je vous laisse continuer à installer, parce que vous êtes en train d'installer des confitures qui ont été faites, des confitures que vous avez...
Mais qu'on a fait avec les personnes du Carmont. Donc on a un jardin où on nous donne des fruits pendant l'été. Et donc du coup, on leur fait participer à la confection des... C'est Sœur Michel, à la confection des confitures. Et pour financer quelques projets. Et là, le prochain projet, c'est plutôt le pèlerinage à Saint-Jacques qui se fait chaque année. Donc,
Saint-Michel, qu'est-ce que vous avez comme confiture?
Bien, il y a de la pastèque, de les figues, des prunes et de la rhubarbe. Mmh. Et j'avais fait de la confiture d'abricot, mais je n'en ai plus.
Elle était trop bonne.
Ben, sans doute, oui.
Voilà. Tout était consommé.
Voilà, voilà. Ben oui, et puis ça marche bien, ça. Voilà. Et puis je suis fière de le faire avec les personnes parce qu'elles participent.
Oui, c'est faire ensemble.
C'est faire ensemble.
Faire ensemble.
Oui, oui. Puis il faut voir comment ils sont heureux de venir faire. Ils m'aident beaucoup à couper les fruits. Bon, après, c'est moi qui fais cuire, mais parce qu'il faut laisser macérer un certain temps dans le sucre, c'est moi qui fais cuire. Mais ils ont participé. Ouais. Puis ils sont contents après que ça se vende et que ça aide pour une aide pour les autres, quoi. En fait, ils le font pour les autres aussi. Ils ne font pas que pour eux.
Le mendiant, il a une mission maintenant de quelqu'un d'assister. Ça va être quelqu'un qui est envoyé en mission et qui doit témoigner.
Le texte des Actes des Apôtres, dans lequel Pierre guérit un estropié à la porte du temple, la belle porte, servait ce jour-là de fil conducteur à la réflexion.
Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de ça.
Et impossible, Sébastien, de ne pas faire le lien entre cette journée et l'encyclique Fratelli Tutti du pape François.
Voilà, c'est ça, oui, on est tous frères et qu'il y a des beaux passages sur l'intelligence collective, sur Fratelli Tutti, où finalement on ne peut pas se passer de l'intelligence collective pour qu'advienne cette fraternité pour tous. Et donc on a besoin de tous, hein, on a besoin des riches, de chacun, de ceux qui écoutent l'émission, là, mais on a besoin qu'ils se mettent en route de ceux qui ne l'écoutent pas parce qu'ils sont trop privés de tout, quoi, trop pris dans leur esprit pour pouvoir prendre du temps pour réfléchir ou pour se poser. Et avec eux, leur dire, on a besoin de toi, quoi. On a besoin
de toi. Comme aujourd'hui, favoriser ces espaces de fraternité. Parce que cet après-midi sera vraiment un espace de fraternité.
Voilà, c'est ça. C'est favoriser ces espaces de fraternité où on peut, quelque part, rétablir la... remettre les choses dans le bon ordre. Parce que souvent, on a des espaces où c'est les riches qui donnent. Et on est dans un espace où c'est les pauvres qui donnent. Voilà. Ce temps de prière, c'est un temps de prière pour les riches, par les pauvres. Mais pour les riches et pour les pauvres, évidemment. Mais pour tous, en tout cas par les pauvres. Et aujourd'hui, c'est eux qui donnent.
regarder l'autre comme un frère à découvrir et à aimer, le défi de toute une vie.